صخرها قدوا عنتهم واسترشدوا بالكوكب الذهبي واسترشدوا بالكوكب الذهبي واسترشدوا بالكوكب الذهبي لم يغرهم.
Je vous rappelle que nous sommes en Palestine, que nous feuilletons un peu un carnet de route avec nos regards de femmes sur cette région, sur les grandes difficultés que vit toujours, malgré le processus de paix et les accords d'Oslo, la population palestinienne. Et là, en ce moment, nous sommes en discussion avec Nathalie Flukiger, qui a décidé de réaliser un documentaire qui reflèterait ce que des femmes ont décidé d'entreprendre dans un village de la Cisjordanie, tout près de Hébron. Hébron, aujourd'hui ville autonome palestinienne, mais Saïr, pas autonome, Nathalie, non?
Je crois que Saïr était dans la zone C jusqu'à il y a peu de temps, donc jusqu'à la fin de l'année dernière. Maintenant, il me semble qu'elle est passée en zone B, mais c'est assez difficile à suivre. Donc la zone B, c'est une zone qui est sous le contrôle et de l'autorité palestinienne et de l'administration israélienne.
C'est très compliqué, rappelez-vous, j'ai tenté de vous l'expliquer la semaine passée avec les diverses cartes d'identité bleu, vert ou orange qui vous laissent passer tout droit ou qui vous bloquent au checkpoint dont nous parlions tout à l'heure. Nathalie, alors le projet lui-même, donc tu l'as d'abord découvert par l'intermédiaire du Centre d'information alternative, c'est ça si je traduis l'anglais,
c'est ça, ouais.
Qui existe à Jérusalem avec à la fois des Palestiniens et des Israéliens dans ce centre et qui soutiennent divers projets. Alors tu l'as d'abord découvert là et ensuite on t'a emmené sur place. Est-ce que déjà il y a eu un décalage dans ce trajet-là?
Pas exactement, non. Ce qui s'est produit, les premiers contacts ont été assez courts. J'ai d'abord rencontré la coordinatrice du centre d'information alternative. L'idée du projet pour les femmes de Saïr, c'est d'amener un soutien, d'amener une infrastructure et ensuite de se retirer à moyen terme. Le centre d'information alternative aimerait se retirer d'ici la fin de cette année ou le début de l'année prochaine. Donc ce projet devra être géré sous la forme d'une coopérative dans le cadre des activités économiques, c'est des activités agricoles. Et ensuite, l'idée, c'est qu'à travers ces activités économiques, d'introduire d'autres activités de l'ordre du social et de l'éducation. Ma rencontre sur place a été faite grâce à, disons, avec la coordinatrice du AIC, Centre d'information alternative. Donc j'ai d'abord rencontré certaines femmes qui font partie d'un comité local. Ce projet donc est dirigé par un comité local, ainsi que par une coordinatrice locale, qui est formée par Hedaya, qui est la coordinatrice du Centre d'information alternative.
Et puis alors, un jour, elles t'ont emmené, ces femmes t'ont emmené à Saïr pour rencontrer concrètement les femmes qui allaient être concernées par ce projet. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, te souvenir, parce que ça c'était il y a combien de temps? Il faut quand même
c'était
préciser à nos
année.
Auditrices que tu y es retournée, quoi. Ce voyage-ci était le troisième voyage,
voilà,
c'est ça?
Voilà, c'est ça, oui. La première fois que j'ai été, c'était pendant les élections, c'est-à-dire quand Netanyahou s'est fait élire au mois de mai l'année dernière. Donc, on m'a amené sur place, il y avait une réunion à laquelle j'ai assisté au début. Il y avait une réunion entre Hedaya, la coordinatrice du AIC, et puis les femmes du comité local. Donc elles étaient à une dizaine environ en tout. Et pendant leur réunion, moi j'ai été me promener un peu dans le village. Ça n'a pas été une chose facile parce que j'étais une des rares étrangères et puis j'étais considérée, certaines personnes m'ont demandé si j'étais israélienne.
Ça veut dire quoi quand on te demande ça? Tu risques aussi de recevoir des cailloux lancés par les gamins, je ne sais, ou ça implique quoi qu'on te dise est-ce que tu es israélienne?
Ça
contraire...
implique de recevoir des cailloux, effectivement. Ça reste encore... Le village lui-même, c'était un village qui reste extrêmement actif au niveau d'une résistance. Et c'est d'ailleurs en 82, le village, on lui a coupé les lignes de téléphone. Il a jusqu'à aujourd'hui toujours pas d'électricité, c'est-à-dire que c'est 3 générateurs qui fournissent de l'électricité de 18h jusqu'à 23h tous les jours. Les routes sont toujours en très très mauvais état. Donc ça, c'est des sanctions qui ont été prises par l'administration israélienne à cause des activités de résistance du village et de ses habitants. Donc effectivement, ça reste une région assez, assez sensible, mais le dialogue reste aussi possible.
Et finalement, parce que tu t'es promenée avec les femmes, petit à petit, les choses ont changé, ou bien même dans le groupe des femmes, ce fut aussi quelque chose de pas si simple que ça, d'être acceptée dans le groupe des femmes?
Non, dans le groupe des femmes, ça va. C'est une chose, ça prend du temps de toute manière. Donc à chaque voyage, moi je suis retournée dans le village et pendant mon dernier voyage, pour la première fois, je suis restée aussi plusieurs jours dans le village. Et les nouvelles circulent vite. Donc auprès du reste de la communauté, une bonne partie a su assez rapidement que j'étais là, que j'étais là en compagnie d'une autre amie et puis surtout que j'étais accueillie par une famille du village. Donc ça va assez vite, mais il faudra encore du temps quand même pour se rapprocher de la communauté, je pense aussi des femmes.
Ça tient aux difficultés de la langue, par exemple, Nathalie, ou bien au poids de la culture qui fait que nous, on se comporte différemment en tant que femmes que peut-être elles?
Je pense que la langue, évidemment, c'est une barrière qui est assez importante, mais la culture, c'en est aussi une qui intervient. Il y a des timidités de part et d'autre, hein, de ma part comme de la leur. Ça,
tu te souviens d'un moment où, toi, par exemple, tu t'es sentie bizarre?
C'est arrivé à plus d'une fois. Il n'y a rien de précis qui peut... C'est une distance qui est toujours là, qu'il faut reconnaître. Je pense qu'elle existera aussi toujours. Elle est fluctuante. Il y a des moments où on peut se rapprocher plus, il y a des moments où de nouveau on a l'impression comme d'une forme de régression, on a l'impression d'avoir établi des contacts, une confiance avec une personne, et cette confiance, on a l'impression qu'elle peut partir à tout moment, et que c'est un travail à très long terme, travail entre guillemets.
Nathalie, on t'avait dit que dans le cadre du projet, il y aurait des choses très concrètes qui étaient prévues dans la réalisation. Et puis, je crois que cette fois-ci, tu t'es dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Tu as eu l'impression que de ton dernier voyage jusqu'à celui-là, pas grand-chose s'était passé. En quelque sorte, tu as eu besoin de poser des questions bien précises pour savoir ce que finalement, peut-être, tu pourrais tourner lors du moment prévu, c'est-à-dire en septembre prochain.
Oui, alors ça, c'est une chose... C'est vrai que les activités des femmes, je crois que ça se met en place difficilement, avec une certaine difficulté du moins. Il y a des choses qui commencent à très bien fonctionner. Ce à quoi j'ai pu assister, c'est principalement les activités économiques. Donc l'idée, c'est de former une coopérative. On aimerait aussi faire une serre, une greenhouse pour l'agriculture. Il y a différentes choses qui se font. Les femmes ont aussi des locaux maintenant. Elles ont 3 pièces à disposition. La première fois que j'ai été les voir, elles n'avaient pas encore ces locaux. Par contre, elles sont allées visiter des locaux qu'elles pourraient peut-être louer dans le cadre de leur centre, de leurs activités.
Parce qu'avoir des locaux, c'est important. Ça signifie un lieu en dehors de la maison.
Exactement.
Un lieu public, c'est ça.
Exactement. Et c'est ça qui m'intéresse principalement. Ensuite, la deuxième fois que j'ai été leur rendre visite, elles avaient effectivement acquis des locaux. Donc, ces 3 pièces qu'elles peuvent louer. Dans ces locaux, ce qu'elles peuvent faire, c'est dans la pièce la plus grande, elles ont des stages qui sont organisés. Elles peuvent rencontrer des personnes de l'extérieur qui viennent donner, c'est pas des conférences, mais il y a des rencontres qui ont lieu avec des militantes, avec des femmes donc qui sont militantes d'un point de vue social comme d'un point de vue politique. Elles ont des cours, elles suivent des cours d'anglais. De français pour les jeunes filles. Elles suivent également des cours de couture, divers cours qui sont donnés. Ensuite, il y a une autre pièce qui leur sert de bureau, mais qui pourrait peut-être leur servir aussi de point de vente pour le village, dans le village même, puisqu'il y a ces problèmes de distribution, il y a des problèmes de déplacement des personnes, mais également des produits. C'est pas évident de faire sortir les produits du village. Donc, on peut essayer de vendre les produits que les femmes fabriquent à l'intérieur du village. Et il y a une troisième pièce qui servira de cuisine pour fabriquer, pour la préparation, puisque dans le cadre donc, des activités économiques, ça se fait d'un point de vue, il y a la broderie, mais également dans le secteur de l'alimentation.
Et puis, simplement, effectivement, ce n'est pas si simple de mettre sur pied, parce que ça, c'est aussi difficile pour elle. Les choses ne sont pas si comprises non plus toujours très bien entre les femmes et visiblement celles qui ont conçu le projet. Il y a la réalité du quotidien qui fait que les choses ne vont pas si vite. On a cru qu'on fabriquait du pain et puis il y avait déjà un boulanger ou je ne sais. Enfin bon, c'est ce genre de choses, non ?
Voilà, il y a de ça. C'est-à-dire déjà créer une coopérative. Je crois que ce n'est pas évident. Même pour moi, ce n'est pas évident de savoir exactement comment marche une coopérative. Et j'ai pu rencontrer quelqu'un qui a mis en place différentes coopératives, donc un Palestinien. Et lui m'a expliqué qu'il y a différents modèles de coopératives déjà. Il y a des coopératives israéliennes, il y a des coopératives américaines. Et il m'a expliqué, sans rentrer dans le détail, mais il m'a expliqué que la société palestinienne, c'est ce qui lui convient le mieux, c'est une coopérative de forme américaine, mais ensuite adaptée. Alors ça, c'est déjà une chose il faut un niveau de formation et d'expérience pour monter une coopérative, savoir ce que c'est exactement. Donc à ce niveau-là, il y a encore un certain travail à faire.
Les femmes n'ont pas cette formation. Tout à l'heure, Hania disait, il n'y a pas de discrimination dans la formation entre les garçons et les filles. Tout le monde va à l'école de la même façon. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là? Est-ce que les femmes sont aussi bien outillées aujourd'hui que les hommes?
Alors, bon, là, on parle de deux choses différentes. C'est vrai que pour l'éducation, moi, je crois que l'éducation de toute la population palestinienne, elle a un niveau assez haut. Ce qui peut arriver en ce qui concerne les filles, c'est pas le cas pour le village de Saïr, mais dans d'autres villages, c'est quand il n'y a pas d'école secondaire à l'intérieur même du village. Comme il y a une certaine pression qui empêche la jeune fille de se rendre à l'extérieur du village, ça fait qu'elle pourra être empêchée de se rendre, de suivre des études d'ordre secondaire.
C'est tout à fait l'impression que j'ai eue, par exemple, dans la famille où je suis allée, moi, pour rencontrer, entre autres, le petit garçon que nous parrainions depuis Genève. Et deux des sœurs restent là à ne rien faire, enfin à être ménagères. Et on sent qu'elles regrettent beaucoup, mais parce qu'entre autres, elles sont dans un camp de réfugiés, qu'il n'y a pas d'école secondaire dans le camp de réfugiés.
Voilà. Ouais.
Alors, pour reparler des difficultés à concrétiser le projet dans le village de Saïr, ce projet qui t'intéresse, toi, à un moment donné, quand même, ça t'a un petit peu inquiété, non, Nathalie ? Parce que tu t'es dit, mais si les choses n'avancent pas, qu'est-ce que je vais bien filmer ? Est-ce que les femmes ont senti ça ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sentent aussi que la nécessité qu'il faut qu'il se passe quelque chose pour que toi, tu puisses faire quelque chose ? Comment elles comprennent ton projet par rapport à leur travail ?
Ça, il faudra voir, je pense, dans le futur, au moment même du tournage. Pour moi, ça a été une expérience assez importante de me rendre compte aussi de ma propre culture, de ma propre éducation. C'est de voir que j'intervenais aussi trop dans leurs affaires. Et peut-être que le centre même qui soutient leurs activités, peut-être qu'ils voient le projet d'une certaine manière, mais peut-être d'une façon trop interventionniste aussi. C'est-à-dire qu'ils voudraient créer un projet, créer des activités. Les femmes demandent elles-mêmes ce qu'elles veulent. Ensuite, elles devront gérer par la suite ces activités seules, mais je crois que le centre lui-même a une certaine façon de voir les choses et peut-être de l'imposer de manière indirecte. Donc ça, c'est une difficulté dans le cadre de ces activités, je pense pas seulement du projet de Saïr, mais également de différents centres de femmes à travers les territoires occupés.
Comment ont-elles ressenti ton projet, alors, très concrètement ? Est-ce qu'elles t'en ont parlé ou est-ce que c'est toi qui as dû, à un moment donné, leur dire « Mais qu'est-ce que vous en pensez ?»
Non, moi, je leur ai présenté le projet. J'ai essayé de leur expliquer de façon extrêmement pragmatique comment ça va se passer. C'est-à-dire qu'en se rallant, on sera une petite équipe, mais on sera malgré tout 3 ou 4 personnes. C'est-à-dire 4 personnes avec un traducteur qui est d'origine, qui vient de Saïr. Mais ça reste quand même... on sera une équipe sur place, on va être tout le temps là-bas, le tournage va durer 4 semaines, avec une semaine de préparation, donc ça peut être peut-être parfois pesant pour elles. Ça, c'est des choses que je leur ai présentées. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus. Il faudra voir au moment même du tournage, au moment même de cette expérience-là.
Est-ce qu'elles t'ont questionné, elles, sur où le film allait être montré? Est-ce qu'elles ont dit « Ah oui, pour nous, ce sera bien, on pourra le faire circuler ». Enfin, est-ce qu'elles se soucient de ce genre de choses-là?
Non, je ne crois pas encore. Je crois que l'important pour eux... Eux, ils m'ont amené tout leur soutien. Ils m'ont garanti tout leur soutien au niveau de la réalisation du film, au moment du tournage. Mais je crois que l'importance d'un film pour eux, c'est dans un premier temps de pouvoir témoigner, de montrer ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est pas seulement pour les femmes, c'est au niveau de toute la communauté aussi. Donc ça c'est la première chose qui apparaît. Ensuite, les questions de distribution, c'est pas encore venu, c'était pas encore à propos. D'où je venais était plus à propos. C'était aussi une question, on m'a demandé, parce que c'est clair que dans un contexte, on est encore dans un contexte d'occupation, il peut y avoir une certaine méfiance. Donc là, c'était plus dans ce sens-là que les discussions allaient.
C'est-à-dire, on voulait savoir ce que tu pensais de la Palestine, quelle position tu avais par rapport à la paix.
On voulait savoir comment
etc.
je m'étais intéressée, mm-hmm. pourquoi je m'intéressais à eux, ce genre de choses, oui.
Et finalement, ils ont été séduits par tes préoccupations? Elles ont été séduites?
Je crois que oui, j'espère qu'on va pouvoir faire ça ensemble aussi. Donc,
Est-ce que toi, tu vois, toi, pour toi, encore des problèmes très importants? Est-ce que tu es inquiète d'ici au mois de septembre prochain? Bon, en dehors, j'imagine, du problème fondamental qui est de trouver les moyens de réaliser ton projet, mais ça concerne, je pense, principalement la Suisse, non?
Oui, ça concerne principalement la Suisse et puis éventuellement des associations, des ONG. Mais effectivement, ça c'est le problème que je dois résoudre maintenant. Pour la suite du tournage, de toute façon, je crois que pour n'importe quel tournage, les difficultés, c'est pas ça qui manque. Il s'agit de gérer une équipe. Donc à l'intérieur d'une équipe, c'est toujours des problèmes d'ordre psychologique qui peuvent apparaître. Je pense que un des problèmes que je peux imaginer, ça va être un tournage qui va être fait sur la durée. On va prendre le temps. Dès ce moment-là, on va aussi s'adapter au rythme du projet lui-même, qui est un rythme assez lent. Donc l'énergie, elle ne va pas venir d'une espèce de contrainte ou de pression extérieure. Cette énergie-là, il faudra la trouver à l'intérieur de nous-mêmes et il faudra avoir énormément de patience. Donc ça, c'est peut-être une chose qui va pas créer une difficulté, mais ça va créer une ambiance. C'est-à-dire, extrêmement, il faudra être patient, ça va être très lent. Et peut-être que ça peut créer une sorte de difficulté.
Et Nathalie, quand tu parles de ton projet ici, en Suisse, est-ce qu'on s'y intéresse? Sans parler forcément des finances, mais est-ce que les gens ne te disent pas, mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire en Palestine, mon Dieu, et ces femmes? Ou au contraire, dire, ah, ça les intéresse?
Il y a un peu des deux réactions, mais je suis quand même étonnée en général par l'intérêt des personnes. De façon oui, majoritaire, les gens sont assez intéressés. Il y a aussi, je crois, dans notre société, je pense qu'il y a un certain nombre de préjugés, surtout en ce qui concerne la femme arabe. Donc à ce niveau-là, il y a aussi une curiosité par rapport à ces préjugés. Thank you.
Alors merci à Nathalie d'être venue nous parler de son projet et de surtout de nous raconter ce que des groupes de femmes tentent de faire aujourd'hui en Palestine. Nathalie, tu reviendras après le tournage de ton film, tu nous raconteras comment ça s'est passé.
Oui, volontiers.
Alors ça, ce sera après septembre prochain, parce que c'est en septembre que tu retournes pour tourner le film, c'est ça?
Voilà, c'est ça, oui.
Alors aujourd'hui, Remue Ménage, eh bien c'est presque fini. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez entendu, mais la pleine lune vient d'entrer dans notre studio. Et donc, dans quelques instants, elle brillera, elle résonnera dans vos oreilles. Remue Ménage, aujourd'hui, c'est terminé. Vous allez passer encore quelques instants en compagnie de Renette Loranaise. Nous sommes en Algérie et nous pensons toujours avec beaucoup d'émotion aux femmes qui aujourd'hui persistent et luttent encore en Algérie au risque de leur vie le plus souvent. Et puis pour la Palestine, eh bien, il y aura un troisième volet de ce carnet de route de regard au féminin sur la Palestine. J'aimerais bien vous faire rencontrer les jeunes d'une école secondaire près de Bethléem que j'ai rencontrés, garçons et filles, qui nous racontent ce qu'ils pensent du processus de paix. Et la différence de réaction entre les garçons et les filles est tellement grande que j'avais vraiment envie de vous faire partager cette rencontre-là. Mais en plus, la façon dont ces jeunes de 16 ans sont capables de s'exprimer en anglais, qui est une langue encore plus étrangère, bien évidemment, pour eux que pour nous, parce qu'en plus, ils doivent apprendre un nouvel alphabet, comme ils arrivent à utiliser cette langue et exprimer ce qu'ils ont à dire sur leur pays. Ça m'a semblé vraiment très, très important. Et puis, il y a une dernière femme que j'ai rencontrée vraiment au tout dernier moment de mon voyage. Ça a été un peu compliqué aussi, elle aussi, de l'atteindre. C'est Abir. Abir est une palestinienne aujourd'hui qui a 27 ans, mais qui à 18 ans a fait le choix d'entrer dans un groupe armé du Fatah parce qu'elle estimait que ce qu'elle avait pu faire jusque-là n'était pas suffisant pour faire avancer les choses dans son pays et qu'elle estimait qu'il ne leur restait plus que le choix, ils n'avaient plus le choix au contraire que d'entreprendre la lutte armée, et c'est ce qu'elle va faire. Et à un moment donné, elle se fera arrêter, elle sera condamnée à 17 ans de prison. Elle n'en vivra, si je puis dire, que 5, c'est beaucoup dire que, puisqu'elle sera libérée le 15 janvier dernier, donc c'est tout récent. Mais sa libération est aussi toute une histoire, puisque dans le cadre des accords d'Oslo, toutes les femmes palestiniennes prisonnières devaient être libérées, mais les autorités israéliennes n'ont pas voulu libérer 4 femmes, dont Abir, sous prétexte qu'elles avaient du sang sur les mains. Et toutes les femmes prisonnières ont décidé qu'elles ne sortiraient pas tant que toutes les femmes ne pourraient pas sortir. C'est ce que nous racontait Léa Tsemel la semaine passée. Alors, Abir elle-même nous reparlera de cela, de son émotion, de ce que ça a signifié pour elle, de cette lutte de solidarité, mais cette fois-ci à l'intérieur de la prison, et comment elle a vécu son arrestation, les pressions, la torture, non pas physique, parce qu'elle a eu la chance de ne pas être torturée physiquement, mais comment on l'a usée, menacée pendant son interrogatoire, et puis ensuite la vie de la prison, et aujourd'hui, comment, depuis le 15 janvier dernier, elle essaye de recommencer à vivre normalement dans la Palestine en construction. Voilà, ce sera le troisième regard, mais ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera dans 15 jours. Ça, c'était plus du tout la Palestine, mais c'était une femme indienne, Samira et Cylinder, qui nous chantait une chanson qui est extraite de ce disque toujours aussi magnifique que nous adorons, qui s'appelle La musique du monde des femmes, qui a été édité par diverses organisations humanitaires, dont l'ex-DDA, la déclaration de Berne, et puis le service très officiel, le ministère d'aide au développement. Je vous propose maintenant d'écouter Monique Froidevaux, la chanteuse magnifique du groupe Soldats Inconnus, un groupe vaudois.
Il y a des jours où je perds confiance. Je fais silence, quelle que soit la force. J'appuie, j'insiste, mais la porte résiste. Une rose, une parole d'eau sur mon palier. Tu as déposé fleurs dans l'ombre d'un soir de décembre, m'aura aidé à trouver les clés. Qui que tu sois, quel que soit l'endroit, sois remercié d'avoir insisté. C'est le passage d'une formule magique, comme le partage de ma musique. C'est le passage d'une formule magique, comme le partage de ma musique. Ce matin, au milieu des ronds, je me sens bien et je perds patience. Je refuse toutes les excuses, cette fadeur d'un monde sans odeur. Car à quoi bon baisser le temps si le quotidien ne rime plus à rien. Le son mat d'une guitare claque pour éclore au cœur de ton corps, réveiller ta curiosité, ton appétit, le goût de la vie. Qui que tu sois, quel que soit l'endroit, j'aimerais te rendre ce geste temps. C'est le passage d'une formule magique, comme le partage de ma musique. C'est le passage d'une formule magique, comme le partage de ma musique.
Vous êtes toujours dans Onde Femme, Radio Zone 3.8, c'est la fin de Remue Ménage et c'est les informels de Radio Pleine Lune.
Chaque matin, je reviens dans ce bar de très loin. Chaque matin, je reviens m'assoiffer dans le creux de tes mains. Chaque matin, au comptoir, je m'accroche.